Chers amis, que faites-vous quand vous ne comprenez pas les desseins de Dieu dans votre vie ou dans le monde? Vous vous révoltez? Vous entrez dans la confusion? Vous abandonnez comme beaucoup partaient par la petite porte? Paul, aujourd'hui, est dans l'Épître aux Romains, confronté d'ailleurs déjà depuis deux dimanches, à une question où les desseins de Dieu sont incompréhensibles. Israël, dans sa totalité, n'a pas accueilli cette grâce immense du Messie. Alors, que peut-on comprendre? Quel est le plan de Dieu? Mais Paul, loin de se révolter, loin d'entrer dans la confusion, loin d'abandonner, il creuse. Il creuse, il lit l'Écriture et il adore. Il termine, il s'ouvre dans la prière, comme le montre ce passage aujourd'hui qui termine les chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains. Depuis la Pentecôte, ça fait déjà pas mal de temps, et après le passage des fêtes qui sont dans la suite et qui sont comme la queue de la comète pascale, la Trinité et le Saint-Sacrement, nous lisons l'Épître aux Romains. Et aujourd'hui, avec cette prière, avec cette ouverture, ce cri d'adoration, eh bien, nous terminons toute la partie doctrinale, les chapitres 1 à 9, et à partir de la semaine prochaine, ce sera toute la partie plus morale, comment guider notre vie, comment agir. Et je voudrais m'arrêter un moment avec vous pour que nous ne laissions pas filer les Écritures comme ça, mais que nous puissions un peu les assimiler. Qu'est-ce que nous avons vu jusqu'ici ? L'Épître aux Romains, elle a le mérite d'aborder la question des conséquences de la résurrection. Si le Christ est ressuscité, qu'est-ce que ça change pour l'humanité? Qu'est-ce que ça change pour nous, pour notre vie? Dans la première partie, les chapitres 1 à 4, Paul explique que Dieu nous justifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous établit dans son amitié, non pas en faisant, comme nous pensons trop souvent, le décompte de nos œuvres, les bonnes ou les mauvaises, mais en nous pardonnant gratuitement toutes nos fautes. Toutefois, ce pardon ne peut nous atteindre que si nous avons foi en lui, c'est-à-dire si nous acceptons librement d'être aimé, d'être pardonné, si nous accueillons cet amour du Seigneur concrètement chaque jour pour renaître de nouveau. Dans la deuxième partie, les chapitres 5 à 8, que l'on a parcouru aussi, il décrit alors la vie des croyants qui sont justifiés, qui sont en amitié avec Dieu, pour nous expliquer que d'une part, ce que nous vérifions tous les jours, nous sommes toujours soumis aux assauts du mal, mais d'autre part, nous voyons que nous avons la force de l'Esprit qui nous fait anticiper dès maintenant, dès aujourd'hui, la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Et voici donc, depuis trois dimanches, eh bien, cette question douloureuse qui, à la fin de ce très beau tableau doctrinal, de cette très belle annonce de la bonne nouvelle, est une question douloureuse, incompréhensible, avec laquelle il met beaucoup de passion et qui le met en échec, au point qu'il dit je voudrais être anathème pour qu'au moins quelques-uns de mes frères comprennent le message du Christ et l'accueillent. Comment se fait-il qu'Israël, qui a été préparé depuis si longtemps, qui est rentré dans cette amitié avec Dieu n'est pas accueilli dans sa totalité, ce salut. Alors que le Seigneur nous apporte, comme le disent les versets 16 et 17 du premier chapitre, qu'il nous apporte justification, son amitié, salut et vie par la foi. Dans le chapitre 9, alors on lit des petits bouts, alors on ne se comprend pas toujours, il va faire comme nous faisons, comme nous avons un problème, une difficulté, quelque chose que nous ne comprenons pas, il va repasser les points positifs, les points négatifs pour essayer d'y voir clair. Et il le fait sur la vocation d'Israël. De ces passages, les commentateurs sont souvent bien démunis. Et les uns en tirent des passages très sévères pour Israël, et d'autres très louangeurs, suivant qu'on insiste ou qu'on est plus sensible au côté, suivant notre sensibilité préalable à cette étude. Mais Paul va plus loin. Il s'appuie sur l'Écriture. Il cherche avec une intelligence qui travaille avec toute sa puissance, mais aussi dans la lumière de la foi, à la lumière de l'Écriture. Et pour nous aussi, comme nous avons des desseins de Dieu que nous ne comprenons pas, il est très important que nous apprenions à ne pas laisser notre sensibilité antérieure trop influer pour vraiment découvrir, vraiment demander. Et c'est là où nous voyons aussi que cette ouverture dans la prière et dans l'adoration à la fois des desseins de Dieu qui nous dépassent, mais dont on peut déjà comprendre quelque chose, eh bien, est important quand nous avons à découvrir au quotidien, eh bien, là où le Seigneur nous emmène. Dans ces passages, je vous disais, il y a un volet négatif, le début, avec trois points. Israël n'a pas compris la gratuité des dons qui ont été faits à ses ancêtres. Il n'a pas, deuxièmement, accepté d'être un instrument de salut pour tous les autres peuples. Et puis, il s'est bloqué sur la justification par les œuvres. Il faut être quelqu'un de bien et non pas par la foi, par cette ouverture, par cette entrée en amitié avec le Seigneur. Et le second volet, qui est plus positif, il existe de fait des fils d'Israël, croyants, qui forment un petit reste choisi. Et puis Israël reste l'instrument du salut, la racine sur laquelle seront greffées toutes les branches, qu'elles soient païennes ou juives. Et puis tout Israël accueillera un jour la miséricorde de Dieu, car les dons de Dieu sont définitifs. Et Paul insiste et il réfléchit sur cette miséricorde. Comme vous le voyez, nous pourrions penser qu'il est difficile pour Dieu de rencontrer l'homme, vraiment. Parce que quand ses fils sont là, c'est le cadet qui s'en va le premier, et quand le cadet revient, eh bien, c'est le premier qui se révolte et ferme la porte, comme il nous est dit dans la parabole du père prodigue, de l'enfant qui s'en va. Que peut donc faire Dieu? Et saint Paul répond, il ne peut que redoubler de tendresse. Et il voit et il rappelle aux chrétiens qu'il a devant lui. Mais rappelez-vous, si vous avez aujourd'hui accueilli le message de Jésus, si vous avez accueilli sa grâce, c'est parce que Israël a trébuché. Parce que sinon, on ne serait pas ouvert de cette manière-là. Et il s'est regardé avec une plus grande profondeur, sans condamner, sans en vivant cette douleur, en ayant toute l'ardeur pour prêcher, mais il ne rentre pas dans des raisonnements uniquement humains. car il voit qu'à travers tous ces chemins, comme disait le père Découvremont, si le mal existe, si les péchés existent, Dieu a toujours un plan B pour nous faire avancer, pour nous faire accueillir sa miséricorde. Il est bon d'apprendre, je vous le conseille, de ce petit passage qui termine ce grand raisonnement où saint Paul dit que finalement Dieu a tout enfermé, tout le monde est pécheur, comme il disait au début, et à la fin ici, il dit tout le monde est enfermé dans la désobéissance quelque part, mais afin que le salut, que la miséricorde soit donnée à tous. Et il est bon sur ce qui dépasse, ce que nous n'aurions pas osé inventer, ce que nous n'aurions pas osé accompagner, Dieu accompagne. Et il est bon de terminer, de s'ouvrir, il serait bon d'apprendre cette semaine par cœur ce petit passage. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu. La richesse de Dieu, c'est l'équivalent, comme le dit Romains 2, 4, l'équivalent de la bonté de Dieu. Sa sagesse, ça désigne sa prudence dans la conduite de l'histoire, la manière dont il avance dans l'histoire, et sa science, c'est exprime cette connaissance incomparable que Dieu a du cœur de l'homme. Donc quelle profondeur dans la richesse, dans la sagesse et dans la science de Dieu. Ses décisions sont insondables. Ses chemins sont impénétrable. Et cela, chez Job, on nous le rappelle d'une manière constante. Et de cette insondabilité des voies de Dieu et cette infinie distance entre les pauvres raisonnements des hommes et la sagesse de Dieu qui guide notre histoire, lui qui est créateur et sauveur. Donc, qui a connu les pensées du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Et vous entendez bien, car tout est de lui, par lui, et pour lui, résonne avec ce que nous accomplissons dans la célébration de ces saints mystères, à la fin de la prière eucharistique, par lui, avec lui et en lui, qui vient recueillir toute notre vie, toute notre histoire, tous ces chemins où quelquefois il nous semble être dans la ténèbre, de ne savoir où avancer, mais il est là, il nous accompagne, et nous savons que sa tendresse est infinie, et qu'à travers ces chemins, des fois si difficiles, si douloureux, si incompréhensibles de notre humanité, il nous associe à l'offrande, il nous associe à la transfiguration de ce monde par la foi, par cette amitié que nous accueillons et ce pardon que nous accueillons du Seigneur et dans lequel nous voulons vivre et que nous voulons qu'à travers nous aussi, il puisse rayonner sur tout l'univers.